Finalement, c'est un cri qui brûle le cœur de l'homme. Nous voulons voir Dieu. L'homme est naturellement créé pour voir Dieu. Il est aspiré pour voir Dieu. On est fait pour voir Dieu. Qu'est-ce que vous voulez ? On est fait comme ça. Il se trouve que Dieu vient révéler son visage. Il vient nous le révéler à travers Jésus-Christ. Jean-Paul II, dans sa lettre sur le troisième millénaire, début du troisième millénaire chrétien, nous dit qu'il faut commencer par contempler ce visage de Jésus. L'attitude fondamentale du chrétien, ce qui fait qu'un chrétien est chrétien, c'est pas qu'il a des pratiques, c'est pas qu'il fait des choses. Ce qui fait qu'un chrétien est chrétien, c'est qu'il vit d'une intimité avec Jésus dont il a vu le visage. Jésus ne cesse de poser le regard sur nous, mais Jésus nous invite aussi à poser notre regard, à le regarder, à le contempler, à l'adorer. Seulement notre cœur, il est vraiment fait pour ça. Il ne trouve son repos que dans la contemplation de Jésus-Christ. Les philosophes grecs déjà avaient dit que notre intelligence, notre âme spirituelle, elle est faite pour la contemplation. Elle est d'autant plus heureuse et d'autant plus apaisée que ce qu'elle contemple est beau et grand. Alors si elle contemple que le petit écran, on a comme seule fenêtre sur le monde le petit écran, eh bien on a un grand écran finalement sur le monde, le vrai monde. Et puis si on contemple le visage du Christ, et finalement l'écran disparaît et on a comme une fenêtre ouverte sur l'invisible, une fenêtre ouverte sur le ciel, une fenêtre ouverte sur notre vraie patrie. Voilà. Alors on va contempler ce soir, si vous voulez bien, le visage du Christ, mais tel qu'il se révèle durant ces quelques jours que nous allons vivre maintenant, qui sont les jours de la Passion. Voir le visage du crucifié, voir le visage à travers quelques flashs qui vont nous être donné par l'Écriture sainte, que Jean-Paul II aussi nous a donné à travers sa lettre sur le troisième millénaire chrétien. On va en tirer les conséquences aussi pour nous, pour notre vie, à chacune et chacun. Première chose que j'aimerais dire, il y a trois grandes semaines qui marquent l'histoire du salut et qui nous révèlent la Trinité tout entière. La première semaine, c'est tout au début de l'Écriture sainte, les sept jours de la Genèse, et au septième jour, le Père créateur se repose. Finalement, le septième jour donne le ton à toute la création. L'œuvre de la création est une œuvre d'amour. Dieu a créé en bonté toute chose. Et finalement, ça balayait toute une série de théories. Vous savez, dans le monde, elles reviennent avec force aujourd'hui, ces théories, de dire qu'il existe au fond deux dieux, un dieu du bien, un dieu du mal, qui se tapent sur la figure, qui n'arrêtent pas de se battre l'un l'autre. Finalement, le mal est nécessaire au bien pour vivre et le bien est nécessaire au mal. Et qu'il y a un équilibre, ce qu'on appelle le yin et le yang, toutes les philosophies orientales qui sont fondées sur cet esprit-là, de cet équilibre du bien et du mal pour faire la totalité du monde. Ce n'est pas du tout dans cet esprit-là que Dieu se révèle à nous dans le livre de la Genèse. Il se révèle à nous comme étant le Dieu de la bonté, le Dieu de l'amour, le Dieu de la plénitude. Il se révèle à nous comme étant celui qui crée toutes choses dans la beauté de son cœur. Quand il crée l'homme, finalement, à son image et sa ressemblance, Dieu se réjouit en voyant que c'était très très bon. C'était bien réussi, là, vraiment. Le Père était très content de ce qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa. Enfin, le mal n'est pas dans l'œuvre de la création. Le mal n'est pas dans l'œuvre de la création. L'œuvre de la création est plénitude, elle est perfection. Et le mal, c'est d'anéantir cette œuvre de la création. C'est de réduire à néant cette œuvre de la création. Le mal n'est pas quelque chose, c'est l'absence d'un bien. Et vous, il y a une plénitude pour laquelle nous sommes créés et une plénitude dans laquelle Dieu crée toute chose, le mal va être une absence de ce bien. Quand je dis que je suis malade, c'est qu'il me manque le bien santé. Quand je dis que je suis triste, c'est qu'il me manque le bien joie. Voyez-vous, tout mal est une absence de bien, c'est un vide. Et l'œuvre de création, l'œuvre qui révèle le visage du Père, est une œuvre de plénitude. Or, le Père n'aura cesse, depuis le péché originel, de nous réinstaurer dans cette plénitude, de nous remplir de son amour que nous avons refusé par le péché originel et que nous refusons par le péché sans cesse. Il veut remplir de son amour. Oh, comment va-t-il nous remplir de son amour? Eh bien, ce qu'on a perdu au péché originel, c'est la capacité de dire à Dieu, Papa, notre attitude humble et obéissante d'enfant de Dieu. Alors, il envoie son Fils, son unique, pour nous rechercher. C'est la deuxième semaine. Dans l'évangile de Saint Jean, il ne pouvait pas ne pas y avoir un écho de cette première semaine de la création dans l'évangile de Saint Jean qui nous rappelle la rédemption. Dieu qui envoie son Fils, le Verbe fait chair, qui descend pour nous ramener vers le Père. Et comment cela se passe-t-il? Eh bien, le premier jour, Jésus sortit comme ça pour prêcher. Le lendemain, le lendemain, le lendemain, le lendemain, le lendemain. Jusqu'au septième jour. Le septième jour, c'est le jour des noces de Cana. Voilà. Et là, il nous est révélé l'œuvre du Fils. Le septième jour, le Père se repose parce que quelqu'un d'autre doit prendre le travail. Le septième jour, c'est Jésus. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, le Père, dans l'œuvre de la création. Il y avait une perfection qui était là. Rester maintenant, après que l'humanité se soit éloignée de Dieu, de venir racheter l'homme. Et ça, c'est le Fils qui commence à travailler. Le Père aussi, toujours, bien sûr, vous comprenez. Quand on attribue une des missions à l'une des personnes divines, les deux autres ne sont pas absentes. Quand le Père crée, il crée dans la puissance de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui plane sur les eaux. À travers son Fils, Jésus, le Verbe, quand le Christ vient sauver, c'est parce qu'il l'envoyait du Père, et il le fait aussi dans la puissance de l'Esprit Saint. Et quand l'humanité entière revient vers le Père par l'Esprit Saint, depuis la mort du Christ, depuis le cœur ouvert, depuis la Pentecôte, il le fait pour que nous soyons enfants de Dieu dans Jésus, et que, enfants de Dieu dans Jésus, nous puissions adorer le Père. Donc c'est toujours une œuvre trinitaire qui se passe. Mais la deuxième semaine est l'œuvre du Fils. Et il vient la signifier à travers les noces de Cana. Cet émerveillement des noces de Cana, où Jésus commence sa mission en disant une parole qui est assez bouleversante. « Femme, que me veux-tu ?» Comme s'il rabrouait sa mère. C'est ce mot qui est repris de la Genèse. Il les créa homme et femme. Et derrière ça, c'est l'âme qui refuse Dieu, l'image de la femme dans le livre de la Genèse. Adam et Ève, Adam c'est la chair, la femme, Ève c'est l'âme spirituelle, c'est l'âme qui pousse la chair à prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est dans l'âme que commence le péché, c'est dans l'âme que commence la désobéissance à Dieu, voyez-vous. Et là c'est Marie, l'âme au cœur de l'humanité. Marie a été posée comme un joyau qui vient appeler le nouvel Adam, pour lui dire, ah, écoute, il faut qu'on recommence les choses, il faut qu'on rétablisse l'ordre. Et Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore venue, parce que son heure, ce serait bien sûr celle de la croix. Hein, Jésus nous parle toujours de cette heure qui doit arriver, mais finalement, déjà à Cana, il y a la préfiguration de l'heure de la croix, puisqu'il va changer l'eau en vin, avant de changer le vin en son propre sang, qui sera versé sur la croix. Alors, il commence l'œuvre du miracle, l'œuvre du retour, l'œuvre de la transfiguration, l'œuvre finalement du salut, hein, puisqu'il verse son sang pour sauver les hommes. Déjà, il vient travailler au cœur des hommes, au cœur de la vie humaine, pour redonner l'amour de Dieu à l'homme qu'il avait perdu. Alors c'est le Fils, deuxième semaine c'est le Fils. Troisième semaine, c'est la semaine sainte. Cette semaine sainte, on voit le Fils qui achève son œuvre, qui vient glorifier le Père, qui va jusqu'au bout de l'amour. Et au bout de l'amour, le septième jour, qu'y a-t-il dans l'évangile de Saint Jean? Jésus rentrant toute porte close dans le cénacle, souffle sur ses apôtres et leur donne l'Esprit Saint. Et commence ainsi l'œuvre de l'Esprit Saint, qui achève l'œuvre de la création dans la rédemption, dans la sanctification de chacune et chacun d'entre nous. Alors on voit ces trois semaines qui vont marquer toute l'histoire du salut et qui nous appellent à rentrer là-dedans. Alors il faut qu'on y rentre, et c'est la raison pour laquelle, en rentrant dans la semaine sainte et notamment dans la liturgie pascale, l'Église nous fait faire mémoire de ce qui s'est passé au début. On lit le samedi saint, le livre de la Genèse avec la création, on lit le récit d'Abraham, on lit le récit de Moïse. Ensuite, toute la parole de Dieu qui découle de ça, enfin différents textes, pour nous amener à Jésus-Christ, pour montrer que c'est une histoire d'amour qui a commencé un jour. Si l'homme l'avait refusé, Dieu reste fidèle, même si l'homme est infidèle, et que Dieu tient promesse, et que les noces qu'il a scellées en créant l'univers, il ne les a pas retirées, mais au contraire, il vient l'accomplir totalement en Jésus-Christ. L'œuvre de création est une œuvre d'amour. L'homme a perdu l'intimité avec Dieu et il la cherche quand même, il la cherche désespérément. Si on regarde un petit peu l'humanité actuelle, mais l'homme ne cherche que ça. Il se fait des idoles partout. Partout, il se fait des idoles. Partout, partout, partout. C'est l'idolâtrie qui se répand partout. Et Auguste Comte, un philosophe, qui avait dit un jour, voilà, il y a eu trois ères, trois grandes périodes dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu la période où l'homme était tellement stupide qu'il avait besoin de croire en un Dieu. Vous imaginez ce que c'était bête. À l'époque, l'humanité était très vieux, tout au début, comme ça. Bon, après, l'homme a grandi, il est devenu plus grand, il s'est contenté de la philosophie, l'ère métaphysique, comme il disait. Hein, voilà, l'homme, avec sa tête, son intelligence, il a réussi à faire des choses. Et troisième période, dit-il, l'homme est suffisamment grand, il est fantastique, il est arrivé à sa pleine maturité. C'est l'homme de la science. Et finalement, il n'a plus besoin de Dieu, plus besoin de métaphysique, plus besoin de philosophie. La science lui suffit à se sauver. Et le prophète de cette ère, dit-il, c'est moi. Bien sûr, il fallait bien qu'il se mette quelque part, vous comprenez bien. Ce conte, qui soudra le prophète du troisième âge de l'humanité, l'âge de l'humanité devenu adulte, puisque l'humanité, il faut la sauver quand même, et tombera amoureux d'une prostituée, dans un premier temps, qui l'épousera, puis ça va pas très bien, il envoie des fourchettes à la figure et des couteaux, du coup on l'enferme dans un asile psychiatrique, il fait 6 mois et ressort non guéri, avec la mention non guéri dans son registre psychiatrique. Après, il tombe amoureux de la femme idéale, c'est Clotilde Devaux. Alors elle, c'est une noble, c'est la femme épanouie, réussie, c'est l'humanité sauvée, voilà, parce que la femme, c'est l'image de l'humanité pour lui. Et finalement, elle meurt, cette chère dame, sans qu'il ait aucune relation avec elle, bien sûr, parce qu'elle avait compris. Voilà que pendant 3 heures par jour, il dressera un hôtel à Clotilde Devaux. 3 heures par jour, il fera un culte à Clotilde Devaux. Lui qui voulait rejeter Dieu, rejeter toute adoration, l'humanité scientifique, Enfin, on a des règles scientifiques claires qui peuvent porter l'humanité. 3 heures par jour, il sera là, avec un rituel très très précis, devant une fleur artificielle que l'avait donnée un jour. Alors, ce sera l'idolâtrie totale de cette fleur artificielle. Un petit bout de billet qu'elle lui a écrit un jour pour lui dire non, je t'aime pas. Il idolâtera aussi ce petit bout de billet. Et puis finalement, il fera des pèlerinages à l'hôtel où ils ont été mangés une fois ensemble. Ce grand scientifique, ce père du positivisme, de la philosophie positiviste, la philosophie scientifique, Auguste Comte, termine à adorer 3 heures par jour le mémoire d'une dame qui est décédée. Enfin, voyez-vous, quand on rejette Dieu, il revient en galop quelque part, voyez-vous. On ne peut pas le rejeter. Alors on va idolâtrer soi-même, la science, son savoir, sa famille, une personne, son fric, sa bagnole, son joint, enfin tout ce qu'on peut idolâtrer, voilà. Non. Et l'homme a toujours cherché Dieu, voyez-vous. Quand il cherche Dieu, quand il veut essayer de rejoindre Dieu par lui-même, ben il se plante, c'est la tour de Babel. L'homme voit bien qu'il a perdu l'intimité avec Dieu, alors il veut construire, il veut remonter au ciel, mais par ses propres forces. Et Babel veut dire confusion. Il y a tout qui se mélange, il y a tout qui se perd. C'est la catastrophe. Et finalement, la tour s'effondre sans jamais atteindre le ciel. La tour qui est la tour de communion qui va être créée, c'est la croix, voyez-vous. Ce n'est pas l'homme qui l'a créée depuis le sol jusqu'au ciel. C'est du ciel sur la terre qu'elle descend et qu'elle est plantée entre ciel et terre comme le signe de l'alliance. C'est la vraie tour. Le seul moyen d'atteindre le ciel pour l'homme, c'est Dieu qui a dû descendre jusqu'au bas de nous. Et donc, en rentrant dans la semaine sainte, on va revoir cette première alliance de la création à travers l'antithèse de la tour de Babel, le contraire de la tour de Babel, qui est la croix du Christ, qui est finalement la croix de la communion et non de la confusion de l'humanité. Voilà. Il y a aussi Abraham qui est rappelé dans la semaine sainte. C'est toutes des figures du Christ. Abraham, Dieu lui demande de quitter son pays, pour rentrer dans le mystère de la semaine sainte, pour entrer dans le mystère de l'amour de Dieu. Il y a quelque chose à quitter, il y a un déplacement à faire. C'est la loi de l'Exode, c'est la loi du passage au fond de devoir quitter. Il y a une obéissance qu'Abraham va vivre là au milieu. Il y a cette question qui surgit dans le cœur d'Abraham. Voilà que Dieu lui promet un fils, alors que Sarah est déjà très âgée, puis que lui-même est aussi très âgé, et qu'elle était stérile, reconnue comme telle. Il lui promet Isaac. Et voilà que Abraham vient, et que Dieu lui demande de sacrifier Isaac. Et alors, en montant sur la montagne, là où il va être sacrifié, là où il devrait être sacrifié, portant lui-même le bois du sacrifice, hein, on voit le Christ montant, le Golgotha, bien sûr, dans la figure d'Isaac, prêt pour le sacrifice. Et voilà que Isaac pose une question quand même à son père, mais où est l'agneau? Où est l'agneau du sacrifice? Ce cri traverse toutes les générations. L'homme qui veut par lui-même, par ses propres forces, faire le sacrifice pour atteindre le ciel, pour réconcilier l'humanité avec Dieu, ne va pas réussir, c'est pas possible. Isaac ne pourra jamais être celui qui va réconcilier l'humanité avec Dieu. Il faut l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. C'est cet agneau qui aura pris sa tête dans le buisson d'épines. Et voyez-vous que là déjà, on a un premier signe, la couronne d'épines de Jésus est préfigurée dans l'agneau qui a pris la tête dans le buisson d'épines et qui sera sacrifié, immolé par Abraham. L'homme ne peut pas par lui-même, même s'il porte sa croix et le poids de souffrance, arriver là. Mais il y a une question qui depuis 4000 ans traverse l'humanité, puisque Abraham c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, 1800, 2000 ans comme ça. Eh bien, il y a cette question qui traverse l'humanité. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Toutes les générations, depuis ce jour-là, qui va nous réconcilier avec Dieu? Où est l'agneau? Partout, partout, sur toute la terre, dans tous les cœurs, dans toutes les langues, de toutes les manières, le cri du cœur de l'homme est poussé à travers le cri d'Isaac. Où est l'agneau? Et voilà que Abraham répond, Dieu pourvoira. C'est la foi qui répond. Dieu sait ce qu'il fait, Dieu donnera en son temps, Dieu donnera tout ce qu'il faut. Pour apaiser le cri du cœur de l'homme, il y a une réponse de foi à poser. C'est celle-là même d'Abraham, Dieu pourvoit, Dieu donne, Dieu accomplit sa promesse. En son temps, Dieu donnera tout ce qu'il faut. Ça c'est la réponse d'Abraham. Et la réponse finale à cette question d'Isaac, c'est 2000 ans plus tard qu'elle surgit à travers Jean le Baptiste. Isaac avait crié, mais où est l'agneau papa? Dieu pourvoira, attends, prends patience et sois fidèle. Et voilà que 2000 ans plus tard, le nouvel Abraham, le porteur d'une parole de foi, mais d'une parole d'espérance cette fois-ci, puisque Jean-Baptiste sera la figure de l'espérance, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 2000 ans plus tard, la question d'Isaac trouve une réponse, elle est dans le visage de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si Abraham figure la foi, Jean-Baptiste figure l'espérance, puisqu'il nous dit, voilà, il est là, enfin, celui qui va t'ouvrir les portes du ciel, celui qui va donner la vie éternelle, celui qui va te donner le bonheur que rien ni personne pourra t'arracher. L'agneau de Dieu, c'est l'amour en personne qui est là, c'est la charité. C'est Dieu qui a tant aimé les hommes, qu'il a envoyé son Fils, témoignage de son amour au cœur des hommes, au cœur de l'humanité. On a la foi, l'espérance et la charité. La foi qui dira, Dieu pourvoit, l'espérance qui dira, voici l'agneau de Dieu, et la charité qui dira, eh bien voilà, je suis là devant toi. Adore-moi, aime-moi, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et je vous soulogerai. Chargez-vous de mon joug. Le joug que le Christ porte lui-même, c'est l'amour même du Père pour l'humanité. Il porte en son sein l'amour du Père et son amour à lui, qui est l'Esprit Saint en personne. Et alors là, l'Esprit Saint va jaillir de la croix. Accueillez l'amour et l'Esprit Saint, et alors votre fardeau sera léger à porter. La réponse de la foi et de l'espérance. Voilà. Il y a aussi, bien sûr, le visage de Moïse qui est là à travers tout cela. Et derrière Moïse, je m'arrête juste un petit point dans le visage de Moïse. Moïse qui fait sortir son peuple de la terre d'Israël, envoyé par Dieu. Moïse accomplit cette œuvre. Il a 40 ans quand il tue le cher soldat égyptien qui maltraite ses frères hébreux. Et puis, bon, il doit se casser dans le désert. Il passe 40 ans dans le désert. Et là, 80 ans, Dieu vient le trouver. Il dit, écoute, tu retournes là-bas et tu vas faire sortir ton peuple. Alors, ça marche en sec. Hein. Ça marche en sec parce qu'il dit, bon, d'abord, qu'est-ce que je vais faire à cet âge? Ensuite, mais tu te rends compte, j'ai mon casier judiciaire là-bas. Je suis fiché. C'est marqué. Hein, c'est marqué. Moïse a tué en telle année un soldat égyptien, c'est pas possible, moi je peux pas aller, je suis fiché, impossible, interdit de séjour dans le pays. En plus je bégaye, je sais pas parler. Ben, tu prendras ton frère Aaron, puis c'est lui qui fera le porte-parole pour raccourcir un petit peu les questions de diplomatie et de dialogue. Voilà, et bien vous débrouillerez les deux, mais il faut y aller. Ah, oh, puis j'ai pas envie, il faut quand même y aller. Il accepte, il capitule. Moïse est aussi le visage du Christ qui nous est préfiguré, voyez-vous. Parce que les 40 ans qu'il passe dans le désert sont la figure des 40 jours que Jésus passe dans le désert. Et là, il part annoncer la bonne nouvelle, après avoir été baptisé. Il part annoncer la bonne nouvelle, il vient faire le vrai passage. Pâques veut dire passage. Pâques veut dire passage. Les deux passages que l'Écriture sainte nous donne par rapport à Moïse. Le premier, c'est que Dieu passe entre les maisons, et toutes les maisons qui sont marquées du sang de l'agneau seront préservées. Les enfants qui sont là-dedans seront préservés. Les autres seront tués. Tous ceux qui seront marqués du sang de l'agneau seront préservés. Le passage de Dieu au milieu de nous reconnaît ses enfants, reconnaît ceux qui sont enracinés dans le Christ. On l'est de trois manières, j'allais dire. D'abord par le saint baptême que nous avons reçu. Ensuite, par tout l'amour qui brûle le cœur de toutes celles et ceux qui n'étant pas baptisés, eh bien, rentrent dans le plan d'amour de Dieu en aimant, en agissant selon leur conscience. Et puis, on l'est aussi par le baptême du sang. Tous les martyrs, toutes celles et ceux qui versent leur sang sans être baptisés, que ce soit les enfants non nés encore, ou que ce soit des gens comme Gandhi, par exemple, qui, au nom de la justice et de la vérité, versent leur sang, appartiennent au Christ et Dieu reconnaît les siens. C'est ceux qui, d'une conscience droite et plein de charité, acceptent de suivre l'agneau de Dieu, pauvre et humilié. Et finalement, c'est le premier passage, l'ange qui vient donner vie, enfin garder la vie, garder en vie ceux qui sont marqués du signe de l'anneau, la vie éternelle, vous comprenez bien, c'est la seule qui compte. Et puis deuxième passage, eh bien c'est le passage de la mer Rouge, où finalement on est délivré de la terre d'esclavage, de la terre d'Égypte. Pharaon, qui signifie un petit peu toutes les forces des ténèbres, avec toutes ces légions qui sont englouties dans les eaux de la mer Rouge, qui se couvrent sur eux, c'est les eaux du baptême. On arrive dans la terre promise, dans la terre de liberté, dans la terre où Dieu vient lui-même nous nourrir. On ne peut plus faire par nous-mêmes. Il y a une sorte de désert, c'est vrai, dont il faut accepter d'être dépouillé, d'être appauvri. Libérer de l'esclavage est une chose, traverser la mer Rouge à pied sec en est une autre, mais finalement, il faut encore être appauvri complètement. Et il y a quelque chose de très très fort, il y a quelque chose de réel là derrière. Hein, vous savez, c'est pas seulement une figure de style. On raconte qu'un jour, des gens étaient dans une église en train de louer le Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Seigneur, louange à toi Seigneur. Des charismatiques, vous voyez, ça sautait fort. Et puis il y a une personne qui vient, férue en sciences bibliques et tout ça, qui dit, tiens, je me demande ce que font des chrétiens avec des cris pareils dans une église le soir. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? C'est pas l'heure d'être dans une église le soir quand même. Qu'est-ce qu'on fait le soir dans une église? Alors il rentre, puis je pourrais savoir pourquoi ces cris. Ben, écoutez, on vient de lire le texte de l'Exode où on voit Moïse qui fait passer le peuple juif à travers la mer Rouge, Dieu ayant ouvert les eaux, il passe à pied sec la mer Rouge, vous vous rendez compte, c'est merveilleux, l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu. Attendez, 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 chut, chut. Non, on se calme. Je vais vous expliquer le problème. En fait, la mer Rouge, c'était une flaque d'eau. Les eaux qui étaient là, c'était pas très épais comme ça, c'était des trucs. Il a soufflé un petit peu, du coup, les eaux sont repoussées un petit peu le loin, et puis ils ont marché au bord, et puis c'est normal qu'ils marchent à pied sec. Donc il y a aucune chose extraordinaire là derrière. C'est simplement une petite couche d'eau qui souffle un petit peu, a permis aux Israéliens de sortir tranquillement du pays d'Égypte. Donc alors rassurez-vous, ça s'explique tout à fait le phénomène du passage de la mer Rouge. Ah bon, ben merci, alors on est contents, on savait pas ça, alors vraiment, merci de nous avoir éclairé. Et alors il sort, tout content d'avoir fait une œuvre de bienfaisance et d'intelligence pour ses frères et sœurs. Et puis d'un coup, il entend de nouveau des cris à l'intérieur. « Ouah, béni sois-tu Seigneur, gloire à toi, louange à toi !» Alors il rentre, là maintenant, il pourrait savoir pourquoi vous chantez la louange de Dieu. Il dit « Mais écoutez, franchement, Dieu il est fort, hein, parce que noyer toute l'armée de Pharaon, ses cavaliers, ses chars, dans si peu d'eau, ben faut le faire. » Il y a un réaliste, la parole de Dieu qui est là. Mais elle est signe d'une réalité bien plus puissante, bien plus forte, bien plus belle, vous voyez. C'est finalement le passage à la libération de la terre d'esclavage du péché. Et dans la terre de liberté des enfants de Dieu. Dans la terre de liberté des enfants de Dieu, eh bien, on ne peut que recevoir de Dieu la force de vivre. Il y a la manifestation de Dieu à Moïse dans le buisson ardent. C'est nouveau un buisson d'épines, hein, qui figure le buisson d'épines, la couronne de Jésus. Avec Abraham, l'agneau est manifesté dans le buisson d'épines. Avec Moïse, la théophanie, je suis celui qui est, je suis l'unique, manifesté dans le buisson d'épines, également dans cette lumière d'un buisson qui ne brûle pas. C'est de nouveau le bois de la croix qui est là, mais avec le Christ, avec ses épines sur la tête, et qui est la lumière du monde, que les ténèbres veulent engloutir en ce vendredi saint. Puisque les ténèbres se font sur la terre, les démons et les hommes se liguent contre Dieu, contre la lumière du monde pour la chasser. Et la lumière éclate au matin de Pâques, plus forte que jamais, un jour sans déclin, que rien ni personne ne pourra jamais arracher. Et puis, il y a aussi la loi qui est donnée à Moïse dans le désert, au Sinaï. Voyez-vous, il y a 10 paroles. Les 10 paroles... qui font écho aux 10 paroles de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, quand Dieu crée, il y a 10 fois l'expression « Dieu dit ». Dieu dit, Dieu dit. C'est une parole de création et d'alliance, cette parole du Dieu qui dit quelque chose, et ce qu'il dit est fait, est accompli. Eh bien, l'homme s'est éloigné de Dieu, il s'agit de recréer l'homme quelque part, et Dieu commence à le recréer par 10 paroles qui sont les 10 commandements. Voilà comment Dieu vient recréer le cœur de l'homme dans l'alliance avec Moïse. Mais finalement, la vraie recréation de l'homme, voyez-vous, elle n'est plus dans 10 paroles, elle est dans une seule parole. C'est Jésus-Christ, le Verbe de Dieu. Saint Jean de la Croix dit, Dieu n'a dit qu'une seule parole à l'humanité, c'est son Verbe. Désormais, il n'a plus rien à nous dire, il a tout dit en Jésus-Christ. Il a tout parlé en Jésus-Christ. Voilà. Là aussi, de nouveau, avec Moïse, il meurt. Il est sur le mont Nebo. Il est sur cette montagne, là. Il voit la terre promise. Il est là, sur le mont Nebo. Voilà qu'il voit la terre promise, mais il ne peut pas y rentrer. Et c'est Josué qui rentre dans la terre promise. Et Josué, Yeshua, c'est Jésus qui nous fait entrer dans la terre promise, la vraie terre de l'Alliance. Là encore, il y a une figure de Jésus. Tout ce qui était donné à Moïse dans la première alliance, cette libération, cette figure, est incapable de nous donner véritablement la vraie liberté, la vraie terre de la paix, de la joie et du bonheur, là où coule le lait et le miel. Josué, Yeshua, Jésus est capable de nous y faire entrer. On a toutes ces figures qui sont là, qui vont nous permettre de contempler maintenant le visage du Christ sur la croix. Parce que c'est là qu'il y a tout. Et vous, je crois qu'il y a une tragédie dans l'humanité, mais dans l'Église aussi, c'est que l'homme se contemple lui-même. Et c'est un peu gênant quand l'homme se contemple lui-même. Miroir, dis-moi qui je suis. Suis-je beau, suis-je belle? Voilà. C'est pas seulement dans cette image-là, voyez-vous, mais l'homme contemple ses œuvres, s'émerveille devant l'œuvre de ses mains, à lui. On sera prêt à louer, à faire des célébrations extraordinaires. J'étais dans une église, on nous fait passer un diaporama, un son et lumière en France, et on faisait le tour de la basilique comme ça, avec un commentaire et avec des lumières qui éclairaient les lieux. On voyait, on avançait comme ça sur les grandes étapes. Voici, ça a été peint par machin, ça a été fait par truc, ça a été fait par... Très bien, très beau, fantastique. La voûte est de style machin, truc chouette chouette. Puis on traverse, on arrive vers le cœur. Alors je me dis, attention, j'étais prêt à me jeter à genoux quand on allait arriver avec le zoom sur le tabernacle, pas d'arrêt. On a fait un travelling sur le tabernacle, passé par-dessus. Rien, pas un mot sur le seul pour qui tout cela avait été fait, c'est-à-dire le Dieu qui était présent en sa petite maison d'amour au tabernacle de l'Église. Pas un mot, rien, rien. On a passé dessus. On n'a parlé que de l'œuvre des hommes et pas une seconde de l'œuvre de Dieu. L'œuvre d'amour de Dieu. Et c'était frappant, cette contemplation de soi-même. L'homme qui se loue. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit, vous savez, quand quelqu'un montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. On peut aussi avoir une sorte de louange de l'homme, même du saint, même de Mère Teresa, voyez-vous, quand les gens vantaient Mère Teresa, admiraient Mère Teresa pour tout ce qu'elle faisait, eh bien on ne voyait pas, finalement, on s'arrêtait au doigt et on n'a pas été jusqu'au bout. Beaucoup de gens sont allés, bien sûr, hein, mais certains sont arrêtés au doigt à Mère Teresa, qui montrait véritablement la lumière, Dieu, Dieu lui-même. C'est le signe par excellence de la charité de Dieu sur la terre. Quand Bill Clinton a rencontré Mère Teresa, vous savez, il est arrivé à Washington. Bill Clinton avait fait dérouler le tapis rouge devant l'avion. Il attendait au bout avec son chef du protocole à côté, et Mère Teresa arrive et se jette à genoux sur la terre. Alors il dit, mince, il bouscule son chef du protocole, j'aurais pu me dire qu'il faisait comme le pape, qu'elle embrassait le sol, on aurait nettoyé un petit peu, fait venir un petit peu la femme de ménage, illustrer un petit peu le... Non, elle n'a pas embrassé le sol, Mère Teresa. Quand Jean-Paul II fait ça, vous savez, il salue l'ange du pays, c'est pour ça qu'il fait ça. Voilà, c'est pas pour embrasser le sol, puis lécher un petit peu le bitume de l'aéroport, c'est pas ça, c'est pour saluer l'ange du pays, s'incliner devant l'ange protecteur du pays pour qu'il fasse son boulot, pour que le démon ne travaille pas trop pendant qu'il est là. Mère Teresa, elle fait qu'une chose, elle a enroulé le tapis rouge. Elle l'a posé dans un coin. Après, elle a été touchée la pince à Bill Clinton. Je vous aime beaucoup, c'est merveilleux ce que vous faites, c'est génial. Puis elle dit, moi aussi je vous aime beaucoup, mais il y a une chose qui me gêne, c'est que vous tuez vos petits-enfants en vous. Dans le ventre de leur maman. Alors c'est pas bien, vous savez. Et ça, c'est pas bien. Alors Bill Clinton a dit, j'aime bien Mère Teresa, mais on a des points de divergence avec elle. Mais il n'a pas été voir plus loin. Il n'a pas été voir plus loin. Et je disais tout à l'heure dans l'Osservatore Romano, un très beau témoignage, un institut Jean-Paul II qui a été ouvert aux États-Unis à Washington. George Bush était là. Et une page pratiquement de l'Osservatore Romano, il y a George Bush qui dit, voilà, l'homme qui montre Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, l'homme qui montre Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Alors bon, il a compris quelque chose à travers le visage de Jean-Paul II, l'homme qui montre Dieu. En voyez-vous, il y a un visage unique qui nous montre Dieu et qui nous dit qu'il y a d'autres réalités. Il s'adresse aux pauvres, il leur donne un message d'espérance. Quand il s'adresse aux riches en leur disant, si vous mettez vos cœurs dans vos richesses, la vraie vie, elle n'est pas là. Enfin, il explique tout ça. Il dit, voilà, le seul homme qui nous montre Dieu dans ce monde complètement désespéré. Nous, on est appelés à ne pas regarder le doigt qui monte à l'une, mais à regarder le Christ, le visage du Christ. Et Jean-Paul II nous dit justement dans son texte pour le troisième millénaire, contemplons Jésus-Christ. Le chrétien, celui qui contemple Jésus-Christ, qui regarde Jésus-Christ, qui voit vivre Jésus-Christ, qui vit cette intimité avec le Christ, non pas comme une idée, non pas comme une théorie, non pas comme un souvenir d'imagination, mais comme un vivant. Le visage le plus éclatant que l'on puisse voir du Christ, c'est le visage de la croix du Christ. Alors il dit, contempler le visage du Christ nous conduit à aborder l'aspect le plus paradoxal de son mystère, qui se révèle à l'heure extrême, l'heure de la croix. Mystère dans le mystère de Jésus, devant lequel l'être humain ne peut que se prosterner et adorer. Cette espèce de révélation de la croix, une sorte de lumière au cœur du monde, comme ça. La scène de l'agonie au jardin des Oliviers se dessine avec intensité devant nos yeux. Jésus, accablé à la pensée de l'épreuve qui l'attend, seul devant Dieu, l'invoque à sa manière habituelle de tendre confiance, « Abba, Père ». L'agonie de Gethsémani, où Jésus appelle son Père. Il y a une parole très très intéressante. Il faut contempler le visage de souffrance du Christ. Le Christ qui appelle son Père comme ça. Et dit à cette parole qui va lancer sur la croix, « Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il dit, voilà, nous ne cesserons jamais d'explorer la profondeur abyssale de ce mystère. Toute l'âpreté de ce paradoxe manifeste dans le cri de douleur, apparemment désespéré du Christ sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Est-il possible d'imaginer un supplice plus grand avec les premiers mots du psaume 22-21 ? C'est clair la lumière de l'ensemble de la prière du psalmiste, qui unit à la fois un mélange de sentiments, de souffrance et de confiance. Et les dernières paroles du psaume, dit Jean-Paul II, « Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne à qui m'aider. Et pourtant, c'est toi en qui nos pères espéraient, ils espéraient, tu les délivrais. » Donc Jean-Paul II dit cette parole du Christ sur la croix, ce cri qu'il lance, il faut le contempler là pour voir jusqu'où va le mystère de l'amour du Dieu qui prend notre place. Ce qu'a poussé ce cri. Mais ce cri, ne nous y trompons pas. Ce n'est pas le cri d'un désespéré, d'un abandonné. C'est le cri d'un fils qui crie pour l'humanité. Et ça, c'est important parce que souvent, on a mal compris cette parole du Christ sur la croix. Et il continue. « Chers frères et sœurs, le cri de Jésus sur la croix n'exprime pas l'angoisse d'un désespéré, mais la prière du Fils qui offre sa vie à son Père dans l'amour pour le salut de tous. Au moment où il s'identifie à notre péché, abandonné par son Père, il s'abandonne entre les mains de son Père. Ses yeux restent fixés sur son Père. C'est bien en raison de la connaissance et de l'expérience que lui seul a de Dieu, que même en ce moment de ténèbres, il voit de manière limpide la gravité du péché et qu'il souffre pour lui. Lui seul qui voit son Père reste dans une jouissance pleine et entière de son Père, mesure en plénitude ce que signifie résister par le péché à l'amour du Père. » avant d'être une souffrance pour son corps et un degré beaucoup plus élevé, sa passion est une souffrance pour son âme. Le cri du Christ sur la croix n'est pas un cri de désespéré, c'est le cri d'un enfant. Et il le pousse quelque part pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore découvert que Dieu est Père, qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Puisque les deux premières paroles que le Christ lance sur la croix, c'est « Abba, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et la dernière parole, c'est « Abba, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et au milieu, la quatrième parole, c'est « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui est de chaque côté, c'est « Abba, Père ». Ce qui est au centre, cette parole de l'abandon. Il vient rejoindre l'homme dans la plus grande misère. Voilà l'amour qui descend jusqu'au bout, jusqu'à ce sentiment d'être abandonné de Dieu, pour le ramener à cette rencontre avec le Père, en qui les péchés sont pardonnés et à qui je peux remettre ma vie entre ses mains. L'abandon complet. Voilà. Alors il faut contempler ce visage du crucifié. Si un jour à Calcutta, on avait un gars qui était là, il avait un de ses gros ventres, comment les gens là-bas avec toutes ces maladies dedans, et chaque jour il fallait lui percer le ventre, et puis faire sortir tout le liquide, c'est des litres qui sortaient comme ça, et il ne pouvait pas se coucher tellement il avait mal, ou de temps en temps quand on avait percé le ventre, là, il pouvait un petit peu s'allonger, mais le reste du temps il est toujours resté assis, comme ça, puis il souffrait. Il rouspétait, chaque fois il nous attrapait pour demander quelque chose, comme ça, on le comprend, hein. Il n'y a pas de jugement là derrière, mais c'est vrai que ce n'était pas facile à supporter. C'est un des malades les plus difficiles à supporter. À un moment donné, il m'attrape, il me dit « passe-moi ta croix ». Puis moi, je refuse de lui donner la croix. En disant « d'abord, il n'est pas chrétien, je ne sais pas très bien ce qu'il va en faire ». Puis après, il y a quelqu'un d'autre qui passe, je crois que c'est Nicolas Caron qui passe, et puis qui généreusement lui donne sa croix. Le gars était transfiguré. Il a tenu la croix dans la main depuis ce jour-là. Il était hindou, mais depuis le moment où il a eu la croix dans sa main, il a souri. Ça a duré quelques jours et nous sommes partis ensuite, retournés en Suisse. On a lui dire au revoir en disant, ben voilà, on va rentrer en Suisse. Ces derniers mots, en le quittant, il nous a dit, moi aussi je vais bientôt partir, aller le voir lui, en montrant la croix. Et il a pu lâcher la croix de ses mains. Contempler la croix, regarder le visage du Christ sur la croix, contempler l'amour sur la croix, c'est ça. Petit garçon, 6 ans, chez le dentiste. C'est ce que c'est cette histoire-là. D'un coup, ça on lui dit, donc ça fait pas mal. « Oh non, je regarde la croix de Jésus. » Il y avait la croix de Jésus qui était sur la porte du dentiste. « Ah non, je regarde la croix de Jésus. » La croix de Jésus, c'est la réponse, voyez-vous, à toutes les souffrances de l'humanité. Parce qu'il a tout porté. Finalement, ce qui éclate sur la croix, c'est l'amour. Petit garçon, Antonio, 5 ans. Son papa était à l'hôpital psychiatrique après une tentative de suicide et sa mère était seule à la maison, la tête dans les mains, comme ça, en train de penser à toute sa famille, à son mari là-bas, et puis à toutes ses difficultés, ses épreuves qu'il traversait. Antonio jouait au Lego dans un petit coin de la cuisine. D'un coup, il entend sa mère qui commence à sangloter. Alors il se lève, il s'approche de sa maman, tout délicatement. Il pose signe de croix sur le front. Et sa maman dit, mais qu'est-ce que tu fais, Antonio? Je te donne Jésus parce que tu es triste. Je te donne Jésus parce que tu es triste. Comme ça. Et Casimir Forma, ce chanoine du Grand Saint-Bernard qui est mort d'un cancer, dans des douleurs atroces, raconte qu'à un moment donné, il a plus de force, plus rien du tout. Et voilà que, à un moment donné, il dit, j'ai plus même le courage de lever mon regard vers la croix. J'ai plus même la force de lever mon regard vers la croix. Pourtant, il le faut, dit-il. Oh Seigneur, donne-moi la force. Et il lève le regard vers la croix. Il raconte ça dans son journal, c'est quelques temps avant de mourir. D'un coup, il dit, et toi Seigneur, tu as souffert tout ça, tu as porté tout ça. Et là, tu es ressuscité avec moi. Joie, resplendissement de joie. Alléluia, merci d'être là avec moi. Et on voit sa prière qui est transfigurée, on voit le combat, la souffrance. Lui, son poids, et Dieu sait si c'est douloureux. Et tout d'un coup, par la grâce de Dieu, ce regard tourné vers la croix. Et une fois qu'il a regardé, apaisement de la présence de Dieu qui vient. Robert Naoussi, ce jeune garçon que les frères Jacquard avaient rencontré en Afrique un jour, rongé par la lèpre, et une lèpre cutanée qui est extrêmement douloureuse. Et puis bon, il avait de la morphine et tout ça. Puis les frères Jacquard lui font connaître la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. D'un coup, il se met à tout offrir pour la conversion des petits-enfants de son âge. Toutes ses souffrances, toutes ses peines et tout ça. Et puis à un moment donné, les frères Jacquard viennent lui apporter ses médicaments pour apaiser un peu sa souffrance. Et voilà, le soir, ils arrivent et les médicaments sont toujours sur la petite table de nuit. Puis il dit, mais t'as pas pris ton médicament? Ah non, j'ai regardé la croix de Jésus. J'ai vu que lui n'avait pas eu de médicament. Alors moi, j'ai dit que j'allais faire comme Jésus. Et il y a eu toute une transfiguration de ce Robert Naoussi. On rentre vraiment dans les profondeurs abyssales du mystère de la passion du Christ. Puisque le 15 août, les frères Jacquard viennent le trouver, il lui dit, c'est la fête de maman aujourd'hui. C'est la fête de Marie. Oh oui, dit Robert, maman, je l'aime beaucoup. Hein, il y avait le petit Mathias aujourd'hui qui était là à midi. Petit enfant, un jeune enfant trisomique, tu sais, toi t'es mon ami, puis moi je suis ton ami. Alors après il explique aux autres, c'est mon ami, mais moi je suis aussi son ami. D'un coup il dit, puis je suis aussi l'ami de Jésus. Ah, je dis, ça, tu as tout à fait raison. Et puis, moi, je suis l'ami de Marie. Puis Marie, elle est rien qu'à moi. C'est ma maman à moi, Marie. Ça, c'est ma maman, Marie, alors. Marie, elle est à moi. Robert a aussi, tu vois, c'est maman Marie aujourd'hui, c'est sa fête. Il dit, oui, je vais lui faire un cadeau, mais j'ai plus rien. J'ai plus rien à lui offrir. Plus rien, je suis là sur mon lit. Alors, il me reste qu'une seule chose, tu sais. Il me reste qu'une seule chose, c'est mes yeux. Alors, j'ai dit à maman, Marie, ce matin, je t'offre mes yeux. Le soir, Robert était aveugle. La lèpre qui attaquait le cerveau et paf, perdu la vue tout de suite. Et il est mort le 1er octobre, le jour de la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Enfin, il est né au ciel, le jour de la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec un sourire offrant sa vie pour tous les enfants de son âge, comme ça. On rentre dans la profondeur abyssale, abyssale du mystère de la croix, où le scandale, l'échec, la nullité devient source de salut. Contempler la croix, c'est rentrer dans le mystère de cet abaissement de Dieu, plus fort que tout, qui va transfigurer tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut dire de l'amour de Dieu. Alors, un dernier petit mot, simplement pour voir une chose, c'est Saint Bernard qui nous dit ça, c'est très beau. Il dit, voyez-vous, seul l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, était capable d'ouvrir les sept sceaux dans l'Apocalypse. Qui est digne d'ouvrir les sept sceaux du livre qui est scellé? Il y a un livre qui était scellé là, puis il fallait ouvrir les sept sceaux. Seul l'agneau est jugé digne, c'est le Christ lui-même, jugé digne d'ouvrir les sept sceaux. Et Saint Bernard dit, je me risque à une interprétation de cela. Alors il dit, il y a plusieurs interprétations côté données, c'est vrai, mais il y en a une que je vais tenter. Et je vous la livre, et moi je vous la livre aussi à la suite de Saint Bernard, donc je me cache derrière lui. Le livre finalement c'est Jésus, c'est la parole, le Verbe de Dieu fait chair, c'est la parole. Seulement cette parole elle est cachée, voyez-vous, dans l'humanité du Christ. Finalement les sept sceaux, le premier, dit-il, c'est Marie et Joseph, le premier sceau qui est scellé. Derrière les fiançailles et le mariage de Marie et Joseph, Jésus se cache. Le Verbe de Dieu qui prend chair est caché et il apparaît comme le fils d'un petit artisan de Nazareth, charpentier de son état, qui construit des maisons. Et habituellement, ils tiennent bien les maisons de Joseph. Bon, il a de la peine à se faire payer. Il passe caché derrière ce visage du fils de Joseph. Lui, le fils de Dieu, il est caché derrière le visage du fils de Joseph. On le connaît bien, on connaît son père, sa mère, c'est le fils de Joseph. Impossible de le déceler par nos propres forces. Deuxième sceau, dit-il, c'est cet enfant dans la crèche. Il est là, tout pauvre, tout nu. Voilà, qu'il a revêtu la chose la plus radicale de misère, c'est cette faiblesse d'un petit enfant reposant dans une mangeoire. Et dit-il, la faiblesse physique du petit enfant, lui le tout-puissant, lui par qui tout fut créé, lui l'éternel. Voilà qu'il y a un sceau, sa faiblesse physique va cacher son toute-puissance. Ensuite, dit-il, il va vivre la circoncision, ce signe de l'alliance avec Dieu, lui qui est le Fils de Dieu, uni à Dieu de toute éternité. La circoncision, c'était en fait aussi un signe de lavement du péché. Et bien voilà que lui qui est sans péché va se soumettre à ce signe qui va cacher son âme immaculée, sainte et toute belle et toute pure devant Dieu. Troisième chose, lui, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, va fuir devant Hérode. Et vous, il fuit devant Hérode, dit le roi de la terre, le roi de gloire, le seigneur des seigneurs, à qui tout pouvoir est soumis au ciel, sur terre et sous la terre, et même les démons doivent plier le genou devant lui, bien voilà qu'il fuit devant un roi terrestre. Il cache sa royauté dans ce mystère de la fuite en Égypte. Cinquième sceau, Jésus, dans sa triple tentation au désert, devant Satan, apparaît comme un homme comme un autre, lui qui est Dieu en personne. Voilà. Derrière cette pauvreté, cet anéantissement, tout en témoignant de sa fidélité à Dieu, il n'apparaît aux yeux du démon que comme un homme, mystérieusement. Il essaie de lui faire prouver sa divinité. Et voilà que Jésus refuse de prouver quoi que ce soit aux yeux du démon. Simplement, il est fidèle à la parole de Dieu, comme tout juif pratiquant, j'allais dire. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Il répond comme tout juste aurait dû répondre. Mais chaque fois que le démon voulait lui faire prouver sa divinité, à travers le fait qu'il saute du temple, le fait qu'il change ses pierres en pain, ce n'était pas un problème pour lui. Il a dit « je suis capable de faire de ces pierres des fils d'Abraham ». Donc, il était quand même assez puissant. Les trois tentations sont, quand on les regarde d'un certain angle, le désir du démon de voir si c'est vraiment lui le Fils de Dieu, le Dieu Messie. Eh bien, Jésus se cache, le sceau est scellé. Le sixième sceau scellé, c'est la croix, le signe d'ignominie, le signe de rejet, d'une mort d'esclave de troisième catégorie, l'horreur de l'horreur. Voilà que le Dieu de majesté cache sa majesté derrière ce signe d'abaissement. Et septièmement, dit-il, eh bien, c'est le tombeau. Alors là, c'est le tout de tout. Voilà qu'on enferme Dieu dans la terre. Voilà qu'on enferme Dieu dans la terre. Lui, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Voilà qu'il est enfermé dans un tombeau. On a roulé la lourde pierre et on l'a mis. C'est fini. Voilà que l'espérance du monde, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, celui sans qui rien ne serait, celui par qui tout fut, eh bien, on l'a coincé. entre dans un rocher avec une lourde pierre roulée devant. Voilà, les sept sauts. Alors, et il faut qu'on rentre dans cet abaissement, dans cette humilité, que nous-mêmes aussi, eh bien, on se fasse pauvre comme le Christ, qu'on suive le Christ dans cet abaissement pour aussi participer. C'est le jour de sa résurrection. Voilà que lui-même, sortant libre et vainqueur du tombeau, va dévoiler derrière tous ces mystères que l'on contemple sans cesse, eh bien, le visage du Dieu qui s'est fait homme, de l'amour qui a pris chair, qui est venu sauver l'homme. C'est une belle leçon, dit-il, parce qu'il faut que nous, on descende aussi avec le Christ, dans cet abaissement, dans cette humilité, dans cette discrétion, dans cette simplicité, véritable humilité qui est le seul lieu de la vérité et le seul lieu de l'accueil de la grâce. Fixant le visage du Christ, tournant notre regard vers lui, ne le tournons pas sur nous-mêmes, hein, cessons de nous regarder. Vous savez, c'est saint Augustin qui disait ça, mais cessez de vous regarder, arrêtez de vous regarder, regardez le Christ, c'est plus intéressant quand même. Je crois que le monde est saisi un petit peu par cette autosuffisance de contempler ses œuvres, de contempler tout ça. Même dans l'Église, on contemple nos commissions, on contemple nos documents. On est tout fier d'avoir réussi à publier un document qui s'appelle AD 2000, publié, imprimé, tout ça. L'Évangile est plus beau quand même. C'est quand même beaucoup plus beau l'Évangile, le visage du Christ. Il ne faut pas qu'on contemple nos œuvres, contemplant la parole de Dieu, pas la parole des hommes. Si ça ne conduit pas la parole de Dieu à la vérité de l'Évangile, à la vérité de l'Église de toujours, eh bien c'est inutile, laissons tomber, ça ne vaut pas la peine. Le monde pourra se transfigurer par ce visage, nos yeux retournés vers le Christ, les yeux fixés sur Jésus, le chef de notre foi, dit saint Paul, qui l'amène à la perfection. Si on ne regarde pas vers Jésus, on est comme saint Pierre sur les eaux, on va couler. Hein, quand saint Pierre commence à regarder les eaux, vous savez, quand il marche sur les eaux, Jésus approche, on croit que c'est un fantôme, et puis je dis, mais non, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est pas dit, bah, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Et alors là, tout d'un coup, il s'avance, ça marche, d'un coup, il se met à couler. Alors, il y a plusieurs interprétations non bibliques pour expliquer ce passage. Certains ont dit, si ma belle-mère me voyait, là, en bas au fond. Parce qu'ils pensent qu'il y a des problèmes quand même. Il devait quitter la maison sans arrêt avec Jésus. Qui sait ce Jésus? Mais on voit la maman qui a trouvé sa fille en disant, mais écoute, ma fille, mais ton mari, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais quand même, mais, et toujours avec ce Jésus. T'entends ce qu'on dit de lui, ce Jésus, mais... Ah, Et puis le pain sur la table, qu'est-ce qu'il apporte? L'entreprise, qu'est-ce qu'il a fait tourner? Hein? C'est bien beau d'aller courir les montagnes, écouter ce bonhomme assis là-bas, tout le temps, écouter les paroles de Jésus. Mais les enfants, il faut quand même bien les nourrir. Hein? Et puis toi, il te délaisse. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon Dieu, pas séparer ce que Dieu a uni. Hein? Début, il a dit, l'homme et la femme, il les créa comme ça. Hein? Puis lui, il part comme ça. C'est drôle de mari. Alors, sa père, il voulait justifier aux yeux de sa belle-mère, mais... Alors, c'est pas ça, l'interprétation. L'interprétation, c'est un coup, il quitte Jésus du regard, et puis il plonge, parce qu'il regarde le vent. L'évangéliste nous dit, il regarda le vent. Le vent, on le voit pas, je vous ai remarqué. On le sent, mais on le voit pas. C'est pas avec la vue qu'on voit le vent. Autant dire qu'il a vu des choses qui n'existent pas. Il a regardé une chose qui n'existe pas, et c'est là qu'il se met à couler. Levant notre regard vers le crucifié, de façon à pouvoir reconnaître, dans le dimanche de Pâques, dans la nuit pascale, le visage du ressuscité, qui ne nous quitte pas. Amen.